Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Ally McBeal.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Pour célébrer le retour de Previously, je vais vous permettre de faire tout ce que nous n'avons pas pu faire il y a quelques mois. Bon, virtuellement, hein, mais quand même.
Sexe.
Ah non, pas ça, pas vraiment. Hein, vous faites ça chez vous. Mais danser, par contre, ça, absolument. Alors, vous poussez les meubles, vous imaginez que vous êtes en soirée avec vos collègues de travail devant un bon grand classique de Barry White. Mais tout d'abord, je vais vous faire voyager. On va prendre notre machine à remonter le temps et à traverser les continents. Nous sommes le 9 mars 1998 au Pelé Festival de Los Angeles, organisé par le Pelé Center for Media, une organisation culturelle qui réunit et explore tout ce qui est média, radio et télévision. Le festival se tient deux fois l'année et organise des soirées, projections où souvent toute l'équipe et tout le cast d'une série se retrouvent pour discuter et répondre aux questions du public. Le festival a pour nom Pelé en hommage à William Pelé, le fondateur de la CBS et un des pionniers de la télévision. Ce soir-là, ils sont plus d'une vingtaine réunis sur scène. Et une voix retentit.
I am not Ally McBeal.
Je ne suis pas Ally McBeal.
David
affirme que oui, mais non. Je pense que quand on interprète un personnage, inévitablement, vous y apportez un peu de vous-même. Quoi? Vous voyez, ça vient de moi.
Et là, voilà, vous les entendez, la salle explose de rire, car la personne juste à côté de l'actrice, sans rien dire, extrait du grand cabas qu'elle porte devant elle, un rouleau de PQ. Non, aucun rapport avec l'actualité récente, ça date de 1998, souvenez-vous. Mais avoir du papier toilette dans son sac, c'est pas du Ally McBeal, peut-être? Vraiment? C'est pourtant typiquement ce que l'avocate aurait dans son sac.
Et je vous parie que ce sera dans un prochain épisode. J'ai un rhume. C'est tout ce que j'ai pu trouver.
Bon, je crois que la démonstration est faite, hein, c'était clair. Calista Flockhart est Ally McBeal. Ally McBeal serait une série judiciaire si on voulait la réduire uniquement à cela. Une série d'avocats, quoi. Ally et ses collègues ont des clients et vont devant les tribunaux pour les défendre. Ils font dans le civil et pas dans le criminel, ce qui signifie qu'ils ont des cas de divorce, de harcèlement, de litige, ou des situations un petit peu plus rocambolesques, genre se marier à trois ou poursuivre le chirurgien qui effectue un implant mammaire un peu trop important. Ally est talentueuse, professionnelle, efficace, c'est une excellente avocate, convaincante et opiniâtre. Sauf que sa vie amoureuse est une catastrophe, un désert, un désastre, un champ de ruines. Et que même si elle est drôle et agréable à vivre, elle traîne avec elle des moments de déprime parce que la réussite professionnelle est une chose, mais l'amour en est une autre. Ally vient de quitter le cabinet d'avocat où elle travaillait, car un de ses collègues lui mettait la main aux fesses. Elle croise alors Richard Fish, qui lui propose de rejoindre son cabinet à lui. Sauf que, surprise, dans ce cabinet d'avocat-là, elle va y retrouver Billy, son grand amour d'enfance. Ouais, il se renifle derrière. Ne riez pas, on a tous fait ça quand on était petits, hein, on s'est tous reniflé derrière. Non? Passons. Billy, donc, un avocat, lui aussi. C'est un peu à cause de cela qu'elle s'est lancée dans la profession, d'ailleurs. Billy, qui est maintenant marié à Georgia Thomas, une autre avocate.
I'm not sure how it all started.
Hey! I quit.
This is perfect. I just started my own practice. You will join us today.
I'm married.
Bygones.
Richard Fish est interprété par Greg German, un comédien qui vient tout juste de sortir de sa sitcom Ned and Stacy. Et il est lui-même assez cynique, sans morale et plutôt charmant et presque enfantin. Son but, faire des tonnes de fric avec son cabinet d'avocat et s'amuser comme un petit fou. Son fantasme, c'est la peau du menton des femmes, ce bout de chair qui pend, surtout pour les femmes un peu mûres. Il n'y peut rien, ça l'excite. La juge Wiper Cohn, interprétée par Diane Carroll, est son amie actuelle et se laisse donc caresser le menton. Et le cabinet, quant à lui, est peuplé d'avocats et d'avocates excentriques, avec leurs petites manies, leur style, leurs procédures. Jusqu'à la secrétaire, Hélène, qui est une vraie langue de vipère et une catin, statut qu'elle revendique totalement, qu'elle assume complètement, et d'inventer, d'ailleurs, le face-bra, un soutien-visage, pas un soutien-gorge, un soutien-visage qui raffermit l'apparence. C'est vous dire. Le cabinet lui-même est assez inhabituel. Ses toilettes sont communes, unisexes. Bon, c'est initialement un problème de place dans le studio où la série est tournée, mais au final, ça devient un lieu de confrontation, de danse, de relation. Un peu l'équivalent de la cuisine dans pas mal de sitcoms. Oui, j'ai bien dit de danse. Pas une erreur. Je vais y revenir. Ally McBeal, ce n'est pas qu'une série juridique de plus. C'est aussi une série romantique. Elle a en son centre un triangle amoureux, qui est à deux pas de devenir d'ailleurs un ménage à trois, tellement ça fonctionne bien. Elle parle des angoisses d'une première rencontre, des opportunités manquées, des désirs inassouvis, des complexes d'infériorité, de jalousie, de fantasmes. Et de la taille. La taille compte-t-elle ? Visiblement, quand Ally se découvre un petit ami, Glenn, qui est incroyablement bien membré, on a la réponse. Oui, c'est à ce stade-là. En plus de la romance, en plus des procès, Ally McBeal s'exprime en musique. Les mélodies, les rythmes, les paroles, tout cela baigne dans le monde des avocats de Cage and Fish, de façon très naturelle. Et comme Ally McBeal est une série qui, sans être une comédie musicale, est une série où la musique joue un rôle constant et essentiel, je vous propose pour ce podcast de faire ensemble la playlist d'Ally McBeal. Alors, on commence tout de suite avec la chanson fétiche d'Ally. C'est la thérapeute d'Ally, incarnée par Tracy Ullman, qui lui demande de se trouver une chanson à elle, un thème qu'elle puisse avoir en tête. Ally va suggérer Searching My Soul, mais elle va rejeter l'idée parce que elle préfère cette chanson-là. Vous comprendrez le gag à la fin de ce podcast. C'est donc avec ce grand standard de la chanson qu'elle va tenter d'aborder la vie, d'avancer et d'oser lui dire. Ally est quelqu'un qui fait face à ses échecs, qui n'a pas peur d'être fragile, qui continue à faire confiance en la vie, à croire qu'un jour, elle s'impliquera dans une relation durable. C'est une fille intelligente, excentrique, maladroite, en pleine tourmente émotionnelle. Bridget Fonda était initialement approchée pour tenir le rôle d'Ally, mais elle ne voulait pas faire des séries télé. Calista Flockhart était une actrice de théâtre à New York et elle fut une vraie révélation, même si on l'avait vue dans des téléfilms et dans le long-métrage de Robert Redford, The Quiz Show, qui était consacré au scandale des jeux télévisés truqués dans les années 50, ainsi que dans The Birdcage, l'adaptation américaine de La Cage aux Folles avec Robin Williams, Nathan Lane et Gene Hackman. Mais Ally McBeal, c'est son Big Bang à elle. Alors maintenant, c'est la chanson du Dancing Baby. Quand la série démarre, son audience d'environ 7 millions de téléspectateurs est assez solide, plutôt régulière, et on espère une montée graduelle au fil des mois. Et soudain, la série passe à 9 millions et devient le sujet de toutes les conversations autour de la machine à café et dans les médias. Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui a fait que Ally McBeal est devenu si soudainement un hit ? Eh ben, un bébé. Un simple bébé qui danse en portant sa couche et oscille lentement au son de « Hooked on a Feeling ». C'est un des rares exemples où une trouvaille d'un des collaborateurs déclenche une histoire, où Ally pense à sa capacité d'avoir un enfant qui s'estompe jour après jour. Le bébé danseur lui apparaît alors, la narguant et la défiant de vouloir danser à ses côtés. Le créateur de la série, David E. Kelley, nous en parle.
En fait, on a été les bienfaiteurs du bébé danseur. Il a été développé par une compagnie, Kinetics, qui l'a mis sur Internet. On a donc vu ça, et c'était au même moment où l'on faisait un épisode sur l'horloge biologique d'Ali. C'était donc un heureux hasard pour nous.
puisqu'on est dans le sujet des apparitions que vit Ally McBeal, voici maintenant la musique pour les hallucinations. Pour rentrer dans la tête et lire dans les pensées d'Ally McBeal, David Ikele, le créateur de la série, a initialement recours à la voix off, un stratagème bien connu, un peu l'équivalent des bulles de pensée dans une bande dessinée. Rien de très surprenant de la part d'un scénariste qui prône plutôt le texte à la place du visuel. Mais pour donner un ton inimitable à la série, il y a les plans imaginaires, les moments de rêve et de délire qui illustrent son sentiment en ce moment même. Touché en plein cœur par un jet de flèche, en train de se noyer, en se faisant hurler dessus, recouverte de gelée, ou balancée dans un camion poubelle par un Fenwick. Toutes ces images qui symbolisent l'état d'esprit des personnages, c'est aussi une marque de fabrique de la série.
Il n'y a pas de règle. On ne se pose pas au début de chaque épisode pour dire « Ok, on doit avoir telle quantité de fantaisie et d'effets spéciaux ». Notre règle générale est que si on peut raconter l'histoire avec une scène d'hallucination plutôt qu'avec des mots et du dialogue, eh ben on le fait. Et si on peut transmettre la même pensée avec des mots et que nous n'avons pas besoin de scènes de fantaisie, alors on le fera. La plupart du temps, en fait, presque toujours, c'est l'histoire et les dialogues de la scène qui motivent le genre de scène d'hallucination que l'on fera. On ne commence jamais en se disant « ce serait marrant de la montrer dans une décharge ». Maintenant, essayons de trouver une histoire qui va avec.
John Kazin prépare les effets nécessaires aux scènes d'hallucination et Mike Most a en charge les effets par ordinateur, comme les langues de Billy Richard démesurément longues à la vue d'une jeune femme, un peu comme le loup dans Tex Avery.
Sex. You're wacko.
Hello. Et voici maintenant la musique pour David E. Kelley. Ah oui, c'est bien le thème de La Loi de Los Angeles, composé par Mike Post. Et c'est clairement le thème musical qui a changé radicalement la vie du créateur d'Ally McBeal.
Je n'aurais jamais pensé pouvoir être là et faire ce que je fais. J'étais un plaideur dans une firme de Boston et en fait, j'allais souvent au procès. Mais c'était pour y faire des requêtes, pas des procès avec un jury. Et je suppose que j'aurais ainsi poursuivi pour faire au final des procès au civil. Je sortais de là quand La Loi de Los Angeles a démarré. J'ai écrit un épisode pour la série et j'ai fini par y rester. Mais je n'aurais jamais pensé que cela allait être ma vie encore maintenant.
Le scénario que David écrivit alors qu'il s'ennuyait ferme en tant qu'avocat avait pour titre « From the Hip ». Il y était question d'un assistant qui manigance pour assurer sa première plaidoirie et utilise tous les trucs possibles, même les plus outrageants, pour remporter la victoire. De son côté, c'était dans le but de prouver que son succès historique « History Blues » n'était pas qu'un hasard, que Steven Bochco appliqua le même style narratif qu'« History Blues » dans une autre série judiciaire cette fois-ci, « L.A. Law », La Loi de Los Angeles. Une firme prestigieuse, des avocats hyper classe, des procès tonitruants et rémunérateurs, mais des conflits sociétaux et humains. S'associant avec une avocate, Terry Louise Fisher, Bochco a besoin d'auteurs qui ont l'expérience de la loi et on lui fait parvenir From the Hip. Donc, il invite David Ikele à le rejoindre. Un an après que démarre son travail dans La Loi de Los Angeles, le film From the Hip sort en salle. Son scénario a finalement été retenu et c'est Bob Clark qui le met en scène avec pour vedette Judd Nelson, Elizabeth Perkins et John Hurt. Et à la quatrième saison de La Loi de Los Angeles, Steven Bochco cède la place de showrunner à David Ikele. À la rentrée 1992, David Ikele lance sa propre série Picket Fences, ou en français La Ville du Grand Secret, ou même aussi en français High Secret City. Bon, chez nous, elle changea souvent de titre. C'est avec Tom Skerritt et Katie Baker en couple dans dans une petite ville, Rome, dans le Wisconsin, avec une vision très déformée de la réalité, excentrique et délirante. La comparaison avec Twin Peaks, qui venait de secouer le monde des séries télé, était évidente. Mais la série de Kelley a sa propre voix. Elle parle de foi, de science, montre des situations extrêmes et caricaturales, mais qui ont toutes une résonance avec des questions éthiques, morales et existentielles. En 1994, David E. Kelley lance une nouvelle série, médicale celle-ci. Chicago, la vie à tout prix, avec Mandy Patinkin en vedette, aux côtés de Mark Harmon, de Peter Berg, de Thomas Gibson et de Peter McNichol dans le rôle de l'avocat de l'hôpital, Alan Birch. Dans une scène d'ailleurs d'un futur épisode, un des personnages de la série voit un épisode d'Ally McBeal à la télé et il se demande qui c'est ce personnage de John Cage là, qui lui rappelle quelqu'un avec qui il a travaillé à l'hôpital. La particularité du scénariste, David E. Kelley, c'est qu'il est incroyablement prolifique. Mais vraiment incroyablement. Sur ses séries, il écrit la plupart du temps l'intégralité des épisodes, soit 22 ou 23 épisodes par saison. Il a par exemple écrit les 22 épisodes de la saison 2 d'Ally McBeal, tout en écrivant aussi, la même année, 17 épisodes de sa série The Practice et un épisode de Chicago Hope. Il écrit un script en 4 ou 5 jours. Et tout ça lui a valu d'ailleurs un contrat d'exclusivité avec 20th Century Fox pour s'attacher ses services pour 30 millions de dollars. Ah, ça c'est la musique de John Cage, le biscuit. Incarné par Peter McNichol, je vais vous en parler là, c'est sans doute le personnage le plus fantasque de la série. Il utilise énormément de gimmicks pour capter l'attention, surtout pendant qu'il est dans un procès. Il parle en rythmant ses phrases avec de très longs silences, il a le nez qui siffle, il dit souvent « poképsie », il n'arrive pas à sourire, il se prend d'affection pour une grenouille, il a des toilettes avec une chasse d'eau qu'il contrôle à distance et les actionne même avant d'entrer dans les toilettes. Il a même une pièce secrète derrière. Et donc, il danse dans les toilettes unisexes avec une chorégraphie très étrange. Une chorégraphie que l'acteur Peter McNichol a mis au point lui-même en se basant sur les shows de variété des années 60 et leur danse quand même un peu bizarre. Et il fait cela sur du Barry White, la voix la plus grave et la plus soyeuse du monde. Le personnage était à l'origine absent du premier épisode pilote de la série. Il n'a intégré la série qu'au deuxième épisode. Et McNichol apparaissait en tant que special guest star, vedette invitée quoi. Et ça, c'était pendant un petit moment. McNichol, lui, a été dans le film Le Choix de Sophie, et c'était un des personnages donc de Chicago Hope, la série médicale du même créateur David E. Kelley. John Cage, le biscuit, va nouer une relation amoureuse avec Nelly.
My present.
It is.
Jusqu'au jour où, pour son anniversaire, elle lui fait le plus beau des cadeaux.
Happy birthday.
Oh, we got it together, didn't we? Yeah, we really got it together, baby.
Le vrai, l'authentique Barry White en personne apparaît dans Ally McBeal, en remerciement d'avoir remis au goût du jour sa chanson mythique My First, My Life, My Everything. Car oui, depuis que le biscuit chante en playback cette chanson dans les toilettes, les ventes de ce morceau sont montées en flèche. Toute une génération redécouvre la discographie de Barry White. Il leur devait donc bien cela, et d'ailleurs il va revenir un peu plus tard pour faire une autre apparition dans la série. Ah, ça c'est le thème pour Ling Wu. Cet extrait du Magicien d'Oz, c'est le thème de la méchante Miss Gulch, celle qui menace Toto, le petit chien de Dorothy. C'est aussi le thème de son double au pays d'Oz, la méchante sorcière de l'Ouest. C'est donc aussi la musique qui accompagne chaque arrivée de Ling Wu. Elle symbolise la personnalité acerbe et agressive de la jeune femme. Ling Wu va jeter son dévolu sur Richard Fish, lui déclarant qu'elle est la meilleure chose qui puisse arriver à un homme, le meilleur rapport sexuel qu'il n'aura jamais. Elle va donc le tenter sans jamais aller plus loin, avec du suçage de doigts et du massage de cheveux. Harcelé par cela, Fish va se venger et lui faire sa caresse du genou, un acte qui envoie Ling au septième ciel. Ling Wu est une des deux nouvelles venues dans la série à sa deuxième saison. L'autre, c'est Sub-Zero, Neely, la glaçante nouvelle avocate du cabinet, hyper efficace, une vraie bombe sexuelle, Neil Porter, est incarnée par Portia de Rossi. Ling, elle, c'est Lucy Liu. et ce rôle sera pour elle son passeport auprès du grand public. Elle enchaînera ensuite, en devenant une des drôles de dames dans les longs métrages, Oren dans Kill Bill, Watson dans Elementary et des personnages inoubliables dans Dirty Sexy Money, Southland et Why Women Kill. Allez, on continue notre playlist. La musique qui a créé Ally McBeal, c'est celle-là. Ah ouais, c'est le générique de Melrose Place. La série dont nous avons déjà largement parlé dans un précédent Previously et qui, si vous vous souvenez bien, est devenue un phénomène national le lundi soir sur la chaîne Fox. Sauf que c'est une heure tous les lundis. Ça fait pas toute la soirée. Peter Roth, le patron de la chaîne Fox, est alors venu voir David et Kelley pour lui faire une demande très spécifique. Kelley nous le raconte.
Ça a commencé avec Fox qui veut une série pour le lundi soir, juste après Melrose Place. Une série qui soit compatible avec ce public-là.
Et oui, Ally McBeal était une commande faite à David E. Kelley. Sa mission, conserver le public féminin présent à 20h avec Melrose Place et qui pourrait donc suivre à 21h avec une autre série. Pourquoi féminin ? C'est simple, le lundi soir, sur l'autre chaîne, ABC, c'est le Monday Night Football, le traditionnel match du lundi. Et donc l'immense majorité des hommes sont branchés sur la chaîne. Ce qui reste, c'est donc une majorité de femmes. Et la seule solution est de faire une contre-programmation. Melrose Place mène la soirée, et donc on crée Ally pour poursuivre après Melrose Place. Sans vouloir jouer les professeurs et séries, cela est quand même l'exemple parfait de la créativité qui peut s'exprimer aussi face à des contraintes et même à une commande claire. Rentrer dans des demandes d'un diffuseur ne signifie pas forcément banaliser sa création. Il suffit d'une opportunité, d'une ouverture, d'une volonté de relever le challenge et il suffit surtout d'avoir beaucoup de talent. Et tout cela, la série y fera d'ailleurs une allusion, un clin d'œil dans un épisode. Alors que tout le monde est en train de danser, comme à l'accoutumée en fin de journée, René, la colocataire d'Ali, demande à son cavalier ce qu'il fait dans la vie.
You didn't tell me what you do.
I run a network.
That's a good one.
Ah, René, tu as l'air de croire que ton cavalier se vante quand il te dit qu'il dirige une chaîne de télé. Pourtant, tu danses en compagnie du patron de la chaîne Fox, à l'origine donc de la série, Peter Roth lui-même.
Does he love me? I wanna know. How can I tell if he loves me so? Is it in his eyes?
Et voici maintenant la musique de la tête d'Ali. Alors c'est pas Ally, c'est sa tête. Parce que même si Ally McBeal est une série chorale avec de nombreuses autres personnes, c'est aussi une série sur Ally, et plus spécifiquement sur ce qui se passe dans sa tête. Écoutez ce qui s'est passé dans celle de David E. Kelley.
La méthode pour développer un pilote n'a rien de très scientifique. Au bout du script, vous avez ce personnage, Ally, et c'est tourné. Mais c'était un peu différent que ça ne l'est maintenant. Si vous vous souvenez, c'était très chargé en commentaires et en voix off. En filmant, on s'est rendu compte que c'était redondant avec Calista. Car elle interprète le rôle en communiquant beaucoup avec son visage. Vous le savez quand vous faites une série, c'est un procédé très inexact. Et à la base de celui-ci, c'est moi qui tentais de rentrer dans la tête de quelqu'un autant qu'à l'extérieur de ce personnage. Et au fil de l'écriture, des choses se tendent et se tordent, et à la fin de la semaine, vous avez un personnage. Ce qui vous permet de passer au suivant, et à la fin, bah, c'est le bordel.
Et maintenant notre playlist, la musique du crossover. The Practice, c'est l'autre côté du miroir de la loi de Los Angeles, une série où les avocats s'occupent de cas beaucoup moins glorieux pour une misère et ils n'hésitent pas à utiliser les moyens les plus, on va dire, déviants pour défendre leurs clients, des mensonges, des compromis et même un peu de corruption. Dylan McDermott tient le rôle de Bobby Donnell et Cameron Mannheim, celui d'Eleanor Fruit. Associés à Lindsay Doll et à Eugene Young, ils vont s'impliquer dans des affaires dures, sales et tenter de garder leur idéalisme intact. La série The Practice démarre en mars 1997 et malgré l'arrivée de Lara Flynn Boyle, l'actrice de Twin Peaks, dans le rôle de la procureure Helen Gamble, malgré aussi des critiques absolument formidables, la série peine à trouver son public et ce n'est pas le succès instantané qu'il méritait d'être. C'est alors que David E. Kelley imagine de lancer une histoire. D'abord dans Ally McBeal à 21h, mais parce qu'il s'agit d'un cas criminel que les avocats de Cage and Fish n'ont pas l'habitude de traiter, ils vont voir ceux de Donnell et compagnie pour que l'histoire se poursuive après, à 22h, dans la série The Practice.
For the first time, a murder so intriguing, it'll take two different shows to solve.
Here's the killer.
Client, Ally. Client.
Right.
Ally McBeal, meet The Practice.
Welcome to our unisex bathroom.
The Practice, meet Ally McBeal.
Donc, un crossover. Un crossover comme il y en a déjà eu entre Picket Fences et Chicago, deux autres séries de David E. Kelley. Sauf que là, les séries sont sur deux chaînes différentes. Fox pour Ally McBeal et ABC pour The Practice. Un peu comme si c'était France 2 d'un côté et TF1 de l'autre. Ouais, un peu, quoi. Forcément, les chaînes sont concurrentes. Mais on ne peut rien refuser à David E. Kelley. Et The Practice va bénéficier de cette mise en lumière pour atteindre 14 millions de spectateurs. Quelques semaines plus tard, dans le dernier épisode de la première saison d'Ally McBeal, Bobby O'Donnell refait un passage dans le cabinet d'Ally McBeal au cours d'un épisode où il a besoin de ses lumières face à un cas un peu excentrique.
Là encore, le processus est très inexact. Pour The Practice, les histoires sont un peu plus linéaires et probablement plus simples à construire pour moi. Avec Ally McBeal, on part d'un centre et on rayonne autour. Et je ne reste pas toujours figé à ma structure. Et je commence souvent à écrire avant de me caler sur une structure. Je reviens en arrière, je transforme le cercle en carré, et au final, j'en arrive à bout. Mais c'est un exercice très approximatif. Un peu comme l'était Picket Fences.
The Practice dura 8 saisons, plus ou moins époustouflantes, on va dire inégales, mais déjà d'un très haut niveau dramatique. La série se réincarnera ensuite dans une autre série judiciaire, mais plus ouvertement loufoque, celle-ci, Boston Legal, avec James Spader dans le rôle de Alan Shore, qui était déjà l'avocat cynique et sans intégrité morale qui était au centre de la dernière saison de The Practice. Et il y avait même William Shatner dans le rôle de Danny Crane, l'avocat tout-puissant dont seul le nom doit faire frémir l'opposant.
Danny Crane, Danny Crane. Danny Crane, 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 Danny Crane.
Yes, I know you're Danny Crane. Why do you always tell me your name? Is it so you won't forget?
Alors maintenant, ça va être un petit peu sexe. Voici la musique du cappuccino. Un homme crée une série pour les femmes. Et la femme s'exprime avec la voix d'un homme. Il n'en fallait pas plus pour que spectateurs et médias s'interrogent sur ce qui fait que la plume de David E. Kelley traduise aussi bien les anxiétés et les fantasmes féminins. Cela va d'ailleurs trouver son apogée dans une séquence qui est devenue mythique, la séquence du cappuccino. Ally va apprendre à Georgia comment boire son premier cappuccino de la journée.
You are about to drink this cappuccino like most men make love, skipping over all the foreplay. Now just hold it in your hands. Oh, just knowing that it's close. Yeah, I see what you mean.
Et Georgia, je vous rappelle, comble de l'embarras, c'est quand même la femme de Billy, potentiellement la rivale d'Ally. Mais Ally et Georgia s'entendent vraiment très très bien, surtout face à ce cabinet d'hommes mené par le très phallocrate Richard Fish. Georgia, dans le pilote, était incarnée par l'actrice Anna Gunn. Mais on remplaça la future vedette féminine de Deadwood et de Breaking Bad par Courtney Thorne Smith, qui venait tout juste de quitter Melrose Place et souhaitait s'impliquer dans quelque chose de très différent. Banco. Non seulement cela pouvait attirer et faire rester les spectateurs de Melrose Place, mais le rôle était très très différent. On allait loin dans Melrose Place, mais pas au point de simuler l'orgasme en buvant du café.
Don't rush it. It only happens with the first cup. Slow. Slow. And drink.
En fait, Au tout début, j'ai pensé que je devais acheter le magazine Cosmopolitan juste pour voir ce que lisent les femmes. Et je n'en ai pas cru mes yeux. Alors j'ai arrêté. Je pense que je suis trop prude. Et en fait, non. Je n'ai pas commencé à écrire sur cette base-là. Maintenant que la série est en route et que les personnages sont ce qu'ils sont, c'est vraiment sur chaque personnage spécifique par opposition à leur genre.
Mais pendant qu'on y est, là, il y a une autre question qui s'impose aux spectateurs et aux critiques. Ally McBeal est-elle une version romancée de Michelle Pfeiffer ? Parce qu'en effet, David Kelley a noué une relation avec Michelle Pfeiffer en l'invitant à une soirée au bowling. Bon, chacun drague comme il peut, hein. Depuis, ils se sont mariés en 1993. Et donc, quand Ally démarre, très rapidement, l'idée que la compagne célèbre de David Kelley soit l'inspiration de Ally McBeal fait son chemin dans l'esprit des journalistes. Voilà ce que David Kelley en disait en 1998.
Calista est non seulement plus drôle, mais elle, elle fait de la télévision. Au moment du pilote, ni moi ni personne n'avait vu la similarité. C'est pendant une rencontre à la presse qu'une journaliste a évoqué cette question et que cela s'est emballé. Moi, je n'ai jamais vu quoi que ce soit de similaire.
Alors là, c'est un peu moins drôle, c'est la chanson de la controverse féministe.
La société est composée de plus de femmes que d'hommes, et si les femmes veulent vraiment changer la société, elles y arriveront. Et j'ai bien l'intention de la changer. J'attends seulement d'être mariée avant.
Parce que Ally est une femme romantique, avec une solide carrière, parce que plus elle est malheureuse en amour, plus ses jupes sont courtes, parce qu'elle dort avec des pyjamas démodés, parce que c'est un homme qui l'a créé et l'a fait vivre, Ally McBeal a connu des critiques immédiatement à sa diffusion, considérant que c'était un pas de géant en arrière pour le féminisme, par opposition à des personnages forts comme Candice Bergen, par exemple, qui incarne Murphy Brown. Ally serait la vision purement masculine de ce qu'une femme libérée devait être dans les années 90.
Ma première réaction était que tout cela était généré par les médias, principalement parce que je ne pouvais pas croire que les gens évoquaient la série de cette façon. Ils prenaient ça tellement au sérieux que je ne m'y attendais pas. Et c'était intéressant. Je veux dire, quand vous êtes une artiste et que vous créez quelque chose, vous voulez évidemment que cela suscite le débat et le dialogue, que les gens en parlent. Et toute cette controverse est excitante. Et c'est même encore meilleur. J'aime provoquer les gens et les mettre en colère. C'est marrant. Et je crois que David fait aussi cela volontairement. Il lance les choses pour voir ce que ça donne. Mais pour Ally, moi, je ne pense pas qu'il faille la définir comme un modèle à suivre. Ally, c'est un personnage indépendant. Et mon intention n'est pas de faire d'elle la représentante de toutes les femmes. Vous savez, il y a plein de personnages masculins qui n'ont pas ce rôle sur les épaules. Mais parce que Ally est une femme, elle, alors, elle symbolise toutes les femmes. Moi, ma position sur le féminisme, c'est que je change tous les jours. Un jour, je le vis comme cela, et le lendemain, autrement. Le personnage est drôle et honnête, et on peut se moquer d'elle, car c'est une vraie contradiction ambulante.
Pour parachever cette réponse, en février 1998, Calista Flockhart rejoint Glenn Close, Uma Thurman et Winona Ryder pour une présentation des monologues du vagin. Et puisqu'on est dans la controverse, voici la musique de la controverse de l'anorexie. La controverse féministe n'est pas la seule à avoir émergé au début de la série suite à la tenue et à l'apparence de Calista Flockhart. Lors de son premier passage à la cérémonie des Emmy Awards, la rumeur commence à circuler que l'actrice serait anorexique. Malgré l'affirmation du contraire par l'intéressée elle-même, le sujet prend un tournant quasi hystérique et elle rejoint la polémique du féminisme. La série promotionnerait l'image de la jeune femme romantique extrêmement maigre. Tout le monde a évidemment oublié que dans l'autre série David Kelley se practice Eleanor Fruit, Cameron Meinheim, est en surpoids sans que cela ne crée le moindre scandale. Et maintenant, notre playlist continue avec la musique de la chanteuse. Ouais, c'est le Searching My Soul qui a été rejeté au début. Alors, c'est assez inhabituel, mais la personne qui compose les chansons pour la série a un rôle régulier dans la série elle-même. Son nom, Vonda Shepard. C'est la pianiste et la chanteuse du bar où se retrouvent les avocats en fin de journée. Danny Lux, lui, est le compositeur de la musique incidentale. C'est donc Vonda Shepard qui a composé et qui interprète Searching My Soul, même si à l'origine, tel hymne, donc, aurait dû être le générique de la série. Searching My Soul est un morceau issu du premier album de Vonda Shepard en 1992, Radical Light. Il s'avère que Vonda est amie avec Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, qui est maintenant la compagne de David Kelley. David Kelley, qui est devenu fan de Vonda Shepard. Le premier CD de chansons de Vonda Shepard pour Ally McBeal va arriver en 7e place du Billboard et se vendra, tenez-vous bien, 143 000 exemplaires rien qu'en première semaine. Ah, là, c'est carrément un autre type de musique, hein. C'est la musique pour les récompenses. Nous sommes maintenant en 1999. C'est le soir des Emmy Awards à Hollywood. David Kelley est déjà sur scène parce que sa série The Practice vient de remporter l'Emmy Award de la meilleure série dramatique. Mais alors qu'il est en coulisses avec tous les acteurs et producteurs de la série et qu'ils ont entre leurs mains l'Emmy Award qu'ils viennent de remporter, Jay Leno ouvre l'enveloppe sur scène de la meilleure série comique de l'année, la meilleure comédie. Et là...
And the Emmy goes to Ally McBeal.
En urgence, David Kelley et son coproducteur Jeffrey Kramer doivent retourner vite sur scène, alors que le reste de l'équipe, en état de choc, monte le rejoindre. David Kelley vient de faire l'impensable, remporter les deux Emmy, meilleur drame et meilleure comédie, la même année, le même soir.
Ils ont dit en coulisses qu'on devait revenir sur scène. J'ai cru qu'il y avait une erreur et que c'était les Sopranos qui avaient gagné.
En quelques mois, Ally McBeal est devenu un phénomène. Elle dépasse en audience maintenant la série qui la précède, Melrose Place, avec 11 millions de spectateurs. Et maintenant, dans notre playlist, voici la musique pour la série de trop. Eh ouais, c'est encore Ally McBeal, mais pas tout à fait la vraie Ally McBeal. Car la série est un tel carton monumental que Fox, à la rentrée 1999, va doubler la mise et demander à David Kelley de produire une deuxième série hebdomadaire à Ally McBeal.
It's TV's best comedy with new scenes.
Oh, baby, baby.
And more Ally.
I need more.
Ally, the new half-hour comedy, Tuesday at 8, 7 Central.
Simplement appelé Ally, cette deuxième version est en fait une rediffusion des précédents épisodes, mais une rediffusion avec des épisodes reformatés. On a retiré les séquences de procès, on se consacre uniquement à la vie des personnages et de Ally en particulier. On rajoute quelques scènes coupées au montage et on donne à tout ça un style résolument sitcom pour en faire une série d'une demi-heure. Manque de chance, personne n'est dupe du procédé et les spectateurs se détournent en masse de ce qui n'est qu'une rediffusion. Ally s'interrompt après 10 épisodes. Pire, la saison 3 d'Ally McBeal montre des signes de fatigue et peine à trouver un fil rouge. Elle commence à carrément s'auto-parodier et va jusqu'à perdre non seulement ses nominations habituelles aux Emmy Awards, mais aussi 13% de son audience. Oula, ça va pas bien du tout. La présence du chanteur John Bon Jovi en nouveau prétendant d'Ally ou l'apparition de Gloria Gaynor chantant à Will Survive dans la salle de bain d'Ally McBeal, sous la douche avec elle, n'y feront rien. Durant cette saison 3, dans un moment extrêmement dramatique, Billy meurt. Après avoir, semble-t-il, perdu la raison et changé radicalement de personnalité, au point de se faire peroxyder les cheveux. Et pour cause, il a une tumeur au cerveau. Et peu après, c'est Allison qui quitte aussi la série. L'acteur James LeGros comble le vide laissé par le départ de Jill Bellows en incarnant un nouvel avocat, Mark Albert. Farrah Fawcett et Randy Newman vont apparaître aussi dans cette saison. Al Green chante aussi, car Ally va tomber amoureuse de ce qui n'est qu'une nouvelle hallucination. Et maintenant, voici la musique de Tony Stark. celui que vous entendez et qui fait la sérénade à Ally McBeal, c'est Tony Stark, Iron Man en personne. Sauf qu'il ne le sait pas encore. Et oui, c'est Robert Downey Jr. qui chante et qui est même rejoué en cours de la chanson par Sting en personne. Every move you make, every fire you bring. Robert Downey Jr., c'est le coup de casting, la grosse vedette qu'il fallait pour redonner un coup chaud à la série qui était en train de se refroidir. Deux mois à peine après le lancement de cette saison 4, Calista Flockhart et lui font la couverture d'Entertainment Weekly, preuve du retour en grâce et en audience de Ally McBeal. Robert Downey Jr. tient le rôle de Larry Paul, un avocat qui va devenir la nouvelle romance d'Ali pour au moins 8 épisodes. Et après cette saison 3 un peu excessive à l'émis de la caricature, du glamour, et ben maintenant ça fait du bien. D'autant que la chimie entre Downey et Flockhart fonctionne si bien que le duo Ali-Larry devient un couple, recréant ainsi des couples mythiques des comédies romantiques du cinéma comme Cary Grant et Carole Lombard. C'est carrément une résurrection professionnelle pour l'acteur qui ne sait pas, bien sûr, encore qu'il deviendra un super-héros de la Marvel, mais qui venait de passer quand même 12 mois en prison avec le matricule P50-522. Il avait récidivé alors qu'il était en probation après avoir été condamné pour possession de drogue. Libéré juste avant le tournage, Robert Downey Jr. avait regardé la série depuis sa prison et accepte l'offre de 100 000 dollars par épisode qui lui est faite par la production, attirée aussi par la rapidité de son retour sur les écrans et le fait qu'il voulait répondre à la requête de son fils de 6 ans, interpréter un gentil. Bien lui en prend, il fait preuve d'un sens comique, d'un rythme et d'un charme absolument essentiel pour la série. Et il y fait des étincelles. De plus, il profite de l'ironie d'incarner un avocat et de se retrouver dans une fausse salle de procès. You have body, you give soul, your soul survivor, it's so... Malheureusement, c'est au moment de Thanksgiving, en novembre, que Downey rechute. Se fait arrêter par la police pour avoir semé le chaos au Merv Griffin Resort de Palm Springs, après avoir consommé de la drogue et être en possession de cocaïne. Nominé aux Emmy et vainqueur d'un Golden Globe, Robert Downey Jr. tournera tout de même de nouveaux épisodes de la série jusqu'à un nouvel incident qui l'élimine définitivement. Le dernier épisode de la saison devait montrer le mariage d'Ali avec Larry, mais il n'en est rien. La saison suivante, la dernière, doit être totalement repensée. Le 20 mai 2002, Ally McBeal vit son dernier épisode, Bygones. Calista Flockhart est depuis apparue dans énormément de films et de séries, et très récemment, on a pu la voir dans Supergirl. David E. Kelley, après une traversée du désert, a conquis à nouveau les spectateurs avec Big Little Lies, la mini-série, et avec The Undoing, sa nouvelle série pour HBO, adaptée du best-seller You Should Have Known de Jean-Humph Koremitz, avec Nicole Kidman en thérapeute new-yorkaise et Hugh Grant en mari dont le monde se retrouve soudain bouleversé. Et Ally McBeal ? Que reste-t-il de cette série phénomène qui a fait le pont entre un siècle et un autre, marquant ainsi un nouveau mélange des genres que l'on pouvait penser improbable ? Eh bien, il en reste 112 épisodes pétillants, innovants et émouvants. Et on peut tous les revoir sur Amazon Prime. La semaine prochaine dans Previously, changement radical. On arrête de danser, on arrête de chanter et vous viendrez avec moi dans une petite ville où il y a de sacrées bonnes tasses de café mais où les hiboux ne sont pas ce que l'on croit. Je vous entraînerai à Twin Peaks. Ce podcast est à réécouter sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.